Chapitre 19. Caton était ce que de nos jours on appelle un original. On portait d'habitude à Rome des souliers et une tunique. Lui sortait sans souliers et sans tunique. La pourpre à la mode était la plus vive et la plus forte en couleur. Lui portait la pourpre sombre et presque couleur de rouille. Tout le monde prêtait à 12% par an, c'était le taux légal. Quand nous disons tout le monde, nous voulons dire les honnêtes gens. Les autres prêtaient, comme chez nous, à 100 ou à 200%. Lui prêtait pour rien, et quelquefois, quand l'argent lui manquait, il donnait, pour rendre service à un ami et même à un étranger qu'il croyait honnête homme, une terre ou une maison, afin que le trésor y prît hypothèque. La guerre des esclaves éclata. Son frère Sépion commandait un corps de 1000 hommes sous Gélius. Caton partit comme simple soldat et alla rejoindre son frère. Gélius lui décerna le prix de la bravoure et réclama pour lui des honneurs considérables. Caton refusa, disant qu'il n'avait rien fait qui méritât aucune distinction. On rendit une loi qui défendait aux candidats d'avoir auprès d'eux des nomenclateurs. Caton briguait la charge de tribun des soldats. Il obéit à la loi et, dit Plutarque, il fut le seul. Plutarque ajoute avec sa naïveté habituelle, il vint à bout par un effort de mémoire de saluer tous les citoyens en les appelant chacun par son nom, et il déplut par là à ceux qu'il admirait. Plus ils étaient forcés de reconnaître le mérite de sa conduite, plus il leur fâchait de ne pouvoir l'imiter. Nous avons dit qu'il marchait toujours à pied. Voici quelle était sa manière de voyager. Dès le matin, il envoyait son cuisinier et son boulanger à la halte de nuit. Si Caton avait, dans la ville ou dans le village, un ami ou une personne de sa connaissance, ils allaient chez cette personne, sinon à l'auberge, où ils lui préparaient à souper. S'il n'y avait pas d'auberge, ils s'adressaient au magistrat qui logeait Caton par billet de logement. Souvent, les magistrats ne voulaient pas croire à ce que disaient les envoyés de Caton et les traitaient avec mépris parce qu'ils parlaient poliment, n'employant ni cris ni menaces. Alors, en arrivant, Caton ne trouvait rien de prêt. Voyant cela, sans aucune plainte, il s'asseyait sur son bagage et disait « Que l'on m'aille chercher les magistrats !» Ce qui faisait que l'on continuait de le prendre pour un homme timide ou de condition inférieure. Cependant, les magistrats venaient et lui, d'habitude, leur adressait cette remontrance. « Malheureux, quittez ces manières dures avec les étrangers, car ce ne sera pas toujours des Catons que vous recevrez chez vous, et tâchez d'émousser par vos prévenances le pouvoir d'homme qui ne cherche qu'un prétexte pour vous enlever de force ce que vous ne leur aurez pas donné de bon gré. » Faites-vous une idée de ce qu'étaient ces magistrats qui s'étonnaient qu'un cuisinier et un boulanger ne leur parlassent pas avec cris et menaces et qui venaient humblement recevoir les remontrances du maître assis sur ses bagages. C'est que ces magistrats étaient des provinciaux, c'est-à-dire des étrangers, et que cet homme assis sur des bagages était un citoyen romain. Voyez ce que l'on faisait pour un simple affranchi. L'anecdote est curieuse et rappelle l'aventure de Cicéron revenant de Sicile et croyant que Rome n'est occupée que de lui. En entrant en Syrie et comme Caton, voyageant ainsi qu'à son ordinaire, à pied au milieu de ses amis et même de ses serviteurs à cheval, approché d'Antioche, il vit un grand nombre de personnes rangées en haie aux deux bords du chemin. C'étaient d'un côté des jeunes gens vêtus de longues robes, de l'autre des enfants splendidement parés. Des hommes étaient à leur tête, vêtus de blanc et portant des couronnes. À cette vue, Caton ne douta pas un instant que tout cet appareil ne fût pour lui et qu'Antioche, sachant que Caton se préparait à faire halte dans ses murs, ne lui eût préparé cette réception. Il s'arrêta, fit mettre pied à terre à ses amis et à ses serviteurs, murmura contre son boulanger et son cuisinier qui avaient trahi son incognito, et prenant son parti des honneurs qu'on allait lui rendre, en se disant à part lui qu'il n'avait rien fait pour les provoquer, il s'avança vers toute cette troupe. Alors un homme, tenant à la main une baguette et ayant sur sa tête une couronne, quitta ceux de la ville et venant au devant de Caton, qui s'apprêtait à le recevoir et à répondre à sa harangue, « Bonhomme, lui dit-il, n'aurais-tu pas rencontré le seigneur Démétrius Et ne pourrais-tu pas nous dire s'il est encore bien loin ? « Qu'est-ce que le seigneur Démétrius ? » demanda Caton un peu désappointé. « Comment ? » demanda l'homme à la baguette. « Tu ne sais pas ce que c'est que le seigneur Démétrius ?»«
Non, par Jupiter, » répondit Caton.
« Eh bien, mais c'est l'affranchi de Pompée le Grand. » Caton baissa la tête et passa, fort méprisé des députés d'Antioche. Il ne connaissait pas Démétrius. Cependant, une grande douleur l'attendait et l'âme du stoïque allait être mise à une cruelle épreuve. Caton était à Thessalonique lorsqu'il apprit que son frère Sépion était tombé malade à Énus, ville de Thrace située à l'embouchure de l'Èbre. Caton courut au port. On se rappelle que ce frère était la seule chose qu'il aimât au monde. La mer était agitée par une violente tempête. Il n'y avait pas dans le port un seul vaisseau capable de tenir la mer par un pareil temps. Caton, suivi de deux de ses amis et de trois esclaves, se jette dans un petit navire marchand et, avec un bonheur inouï, après avoir failli 20 fois d'être submergé, arrive à Énus juste au moment où son frère venait de mourir. À cette nouvelle, à la vue du corps de son frère, il faut rendre cette justice à Caton, le philosophe disparu pour faire place au frère et au frère désespéré. Il se jeta sur son corps et le serra entre ses bras avec les démonstrations de la plus vive douleur. « Ce n'est pas tout, dit Plutarque, comme si la vraie douleur de Caton était dans ce qui va suivre. Il fit pour les funérailles de son frère des dépenses extraordinaires, prodigua les parfums, brûla sur le bûcher des étoffes précieuses et lui éleva, sur la place publique d'Énus, un tombeau de marbre de Thasos qui lui coûta 8 talents, 44 000 francs environ de notre monnaie. Il est vrai que César prétendit que Caton avait passé au tamis les cendres de son frère pour en retirer l'or des étoffes précieuses qui avaient été fondues par le feu. Mais on sait que César n'aimait pas Caton. Et puis, César était si mauvaise langue. Au reste, Pompée vengea Caton avec usure du petit désagrément qui lui était arrivé en entrant à Antioche le jour où on lui avait demandé des nouvelles de Démétrius. Pompée était à Éphèse lorsqu'on lui annonça Caton. Dès qu'il l'aperçut, il se leva de son siège et alla à sa rencontre comme il eût fait pour un des personnages principaux de Rome. Puis, le prenant par la main, il l'embrassa et lui fit de très grands éloges, sur lesquels il renchérit encore lorsqu'il se fut retiré. Il est vrai que, quand Caton annonça son départ à Pompée, celui-ci, qui avait l'habitude de retenir ses visiteurs par toutes sortes d'insistances, ne dit pas un mot pour changer la résolution du voyageur. Et même, ajoute Plutarque, il vit son départ avec joie. Pauvre Caton! De retour à Rome, il brigua la questure et l'obtint. Cette charge de questeur avait principalement pour but de constater l'emploi qui avait été fait des finances de l'État et de regarder les mains et les poches de ceux qui les avaient manipulées. Or, voici ce qui arrivait. Les nouveaux questeurs n'avaient naturellement pas la moindre notion de ce qu'ils avaient à faire. Ils s'adressaient pour les renseignements aux employés inférieurs qui, stationnaires, étaient, par la longue pratique de leur charge, mieux instruits qu'eux. Mais ceux-ci avaient intérêt à ne rien changer, de sorte que les abus continuaient. Il n'en fut pas ainsi de Caton. Il ne se mit sur les rangs qu'après avoir étudié à fond les lois questoriales. Aussi, dès son entrée en charge, vit-on que l'on allait avoir affaire à un véritable questeur. Il réduisit ses scribes, contre lesquels, 80 ans plus tard, Jésus devait tonner d'une si terrible manière, à n'être que ce qu'ils étaient, en effet, c'est-à-dire des agents subalternes. Alors, il y eut une ligue de tous ces gens-là contre Caton. Mais Caton chassa le premier, qui fut convaincu de fraude dans le partage d'une succession. Un autre ayant supposé un testament, Caton le mit en justice. C'était un ami de Catulus. De Catulus, vous savez, ce même Catulus tenu partout pour un si honnête homme. Catulus supplia Caton de lui faire grâce. Caton fut inexorable. Comme Catulus insistait, « Sors d'ici, lui dit Caton, ou je te fais chasser par mes licteurs. » Catulus sortit.
Mais tant la corruption était enracinée, Catulus n'en défendit pas moins le coupable, et comme il voyait que, faute d'une voix, son client allait être condamné, il envoya chercher en litière Marcus Lollius, un des collègues de Caton, qui n'avait pas pu venir étant malade. Le suffrage de Marcus Lollius sauva l'accusé. Mais Caton ne voulut plus se servir de cet homme pour scribe et refusa obstinément de lui payer ses appointements. Ces exemples de sévérité brisèrent l'orgueil de tous ses concussionnaires. Ils sentirent le poids de la main qui s'appesantissait sur eux. Ils devinrent aussi souples qu'ils avaient été rebelles et mirent tous les registres à la disposition de Caton.